Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre
et Alexandra
sur IDFM
pour un nouveau rendez-vous compte
avec pour invité aujourd'hui un ami, un proche, un partenaire. Bonjour François.
Bonjour.
Et puis bonjour également à un autre ami, à notre partenaire. Bonjour Gérard, qu'on a reçu au mois de mai dernier.
Bonjour.
Et puis invité, disons exceptionnel, Alexandra.
Bonjour.
Alexandra qui a déjà animé avec moi quelques émissions.
Oui, c'est vrai.
Alexandra qui vient de passer son bac de français.
Oui, c'était très dur.
Mais aussi qui a fait un stage intéressant avant les vacances.
Oui, j'ai fait un stage chez Europe 1 et j'ai eu la chance en fait de pouvoir découvrir tous les studios de radio, de télé. Donc c'était pour moi une expérience mémorable.
Alors François,
oui,
c'est je dirais d'abord le journal de François.
Voilà, si tu veux, je me présente comme souvent comme ça, François du journal de François. Je suis devenu noble.
Ah oui, c'est pas mal, Monsieur de François.
Voilà.
Alors comment est-ce que vous pouvez présenter votre journal rapidement?
Alors rapidement, journal de proximité, je crois que c'est l'essentiel, journal de proximité de la vallée de Montmorency, diffusé sur internet, ça fait maintenant une petite quinzaine d'années. Qui grandit petit à petit et qui informe donc les lecteurs de l'actualité culturelle, solidaire, de l'histoire locale, de notre région, de la vallée de Montmorency. Donc les lecteurs sont informés par newsletter deux fois par semaine et puis aussi regardent le site internet quand ils le souhaitent.
Qu'est-ce que c'est géographiquement que la vallée de Montmorency? Ça comporte beaucoup de communes quand même.
Oui, c'est pas mal de communes. Alors historiquement, ça va de quasiment Méry-sur-Oise, Frépillon d'un côté au nord, et puis Deuil-la-Barre jusqu'à Groslay dans le sud. Quoi. Et ça traverse donc Hermont, Sannois, Franconville, Enghien, Montmorency, Margency... Montlignon. Donc c'est bordé par la forêt de Montmorency d'un côté, la frontière, et puis de l'autre côté par les coteaux pour aller jusqu'à Cormeilles-en-Parisis, quoi. Donc les habitants n'ont pas toujours l'impression d'être dans une vallée, mais en fin de compte, il y a quand même de chaque côté, il y a comment on peut appeler ça, une frontière naturelle, quoi.
J'avais une question. Est-ce que vous avez déjà pensé à rendre votre journal sur papier?
Alors, Alexandra, il était sur papier au tout départ.
Ah.
Et puis, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas la réactivité.
Ah oui, ok.
Voilà, il y a un problème de réactivité par rapport aux informations. Et
oui,
puis, le coût aussi, un coût. Un coût d'impression et de diffusion. Mais c'est vrai qu'après, je me suis vite rendu compte que l'Internet et que la diffusion. Via newsletter était beaucoup plus efficace pour informer les gens, quoi, les lecteurs.
Alors, il y avait combien à peu près d'abonnés papier, on va dire? Et puis maintenant, combien d'abonnés Internet?
Ça n'a rien à voir parce que papier, c'était tout au départ. Il y avait 200 ou 300. Et là, d'inscrits au newsletter, je suis à pas loin de 9000, quoi.
Ah oui, ok.
Voilà, donc c'est pas la même...
fréquence.
Ouais, c'est pas la même fréquence, c'est pas la même démarche. La newsletter, les gens s'abonnent gratuitement.
Oui.
Voilà, c'est
okay.
C'est différent, quoi.
Mais l'air de rien, François, il crée du lien social avec son journal. C'est ça qui est intéressant. Il y a un certain nombre de gens. Alors, 9000, c'est par rapport au Val d'Oise ou à la vallée de Montmorency, c'est pas un nombre énorme d'habitants. Mais on essaye de
c'est
faire en sorte qu'il y en ait un peu plus, justement, à chaque fois. Et il y a des gens qui ont le réflexe de dire, bah voilà, si je veux savoir ce qui se passe dans la vallée de Montmorency, eh bien, je vais sur le journal de François. Et ça, c'est ce réflexe-là, ça, c'est bien s'il se développe encore chez plus de personnes.
Voilà. Surtout le week-end.
Oui, surtout.
Pendant les vacances.
Ouais, exactement.
Donc merci, hein, c'est vraiment très utile. C'est un peu l'office du tourisme de la vallée de Montmorency, on pourrait dire.
Alors, certains m'ont dit le Pariscope.
Le Pariscope.
Ils ont comparé au Pariscope un peu, voilà, on prend le guide et puis, ou l'officiel du spectacle et on prend un peu voir ce qui se passe dans le...
Ouais.
Voilà, c'est vrai qu'après, il y a la newsletter et il y a le site internet. Les gens regardent directement aussi sur le site internet. Donc là, les nombres de pages, il y a beaucoup de pages de visiter. Après, il y a un petit peu aussi les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, qui permettent de relier aussi, quoi.
Oui, puis, tu as élargi, tu as élargi à une rubrique culture, et puis une rubrique historique, etc. C'est par rapport au départ, je crois, tu as diversifié le champ. Et ça, c'est intéressant, c'est pas seulement les spectacles culturels, sportifs, etc. Mais petit à petit, ça s'est élargi, ça c'est intéressant.
Oui, ce qui est aussi intéressant, c'est que pour accéder sur ce journal sur Internet, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Sur papier, il faut juste taper sur Internet.
Exactement. Les gens peuvent le consulter
quand ils veulent.
Quand ils souhaitent, sur le mobile, sur le. Voilà, c'est vrai qu'il fallait un peu s'adapter. Le virage a été. Fallait faire un choix. Mais bah, je ne regrette pas. Oui, ça fait une bonne quinzaine d'années maintenant.
D'accord. Ouais. Et c'est un journal, vous êtes rémunéré pour ou c'est du bénévolat?
Alors, je suis rémunéré pour avec un système atypique. C'est-à-dire, comme certains, je l'ai appris comme certains journaux anglais, ce que j'ai appris récemment. C'est-à-dire que l'accès est gratuit.
Oui.
Donc, vous pouvez aller sur le site internet, vous pouvez tout consulter, vous pouvez tout lire. Tout est en accès gratuit, je ne gère pas de mot de passe, rien du tout.
Oui.
Et c'est ceux qui apprécient, les lecteurs qui apprécient, qui soutiennent le journal.
D'accord.
Volontairement.
D'accord.
Donc, les lecteurs me soutiennent régulièrement. Alors, il y en a, c'est tous les ans. Il y en a, c'est tous les 6 mois. Il y en
avec
a, c'est tous
dons,
les 2 ans. Avec des dons.
D'accord.
Exactement.
Alors, Gérard, quel rôle a joué le journal de François dans ta carrière, si je pourrais dire, littéraire?
Ben, moi, je ne pensais pas qu'un jour, ce serait publié en dehors d'une version écrite traditionnelle. Et puis, on avait une rencontre commune qui était Jean-Marie Brochard, qui est l'amoureux des chats, dessinateur patenté de chats tous les matins. Je pense que s'il ne dessine pas un chat le matin, sa journée est fichue. Et donc, on s'est rencontrés et il a été d'accord, Jean-Marie, pour illustrer les 75, au total, chroniques. Du monde vu par mon chat et
Maurice, le chat.
Et chaque semaine donc François était d'accord partant pour publier hebdomadairement une chronique.
Alors ce qui est très bien aussi dans le journal de François, c'est la possibilité de faire des recherches et donc si on tape Gérard ou si on tape Maurice, on retrouve les chroniques.
Ah bah oui.
Ça c'est vraiment très très pratique. Toutes les archives du journal. Alexandra, est-ce que tu aurais une pause musicale à nous proposer?
Oui, je pense que ce serait bien qu'on écoute l'expresso de Sabrina Carpenter à présent.
On écoute.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des différentes rubriques qu'il y a dans le journal de François?
Oui. Donc, ce que je disais, comme c'est un journal de proximité, donc c'est l'actualité culturelle, donc on retrouve l'agenda avec tout ce qui est sorti, ce qui est proposé en animation culturelle dans la région. Il y a une partie solidarité aussi, où je vais essayer de mettre en avant les actions solidaires.
D'accord.
Faites par les associations qui ont du mal des fois à...
agrandir en visibilité, par exemple.
Voilà, c'est leur donner un petit coup de pouce. Hein, leur donner un petit coup de pouce. Et puis après, comme disait Gérard, il y a une partie histoire locale qui est très appréciée par les lecteurs et qui permet de s'approprier notre propre région. On a découvert beaucoup... Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de traces de l'histoire dans la région. Et puis avec un focus aussi sur la forêt de Montmorency, par exemple, il y a plein d'histoires sur la forêt de Montmorency. La forêt de Montmorency, c'est ce qui relie un peu tous les habitants de la vallée de Montmorency.
Oui.
C'est notre poumon vert, il faut le préserver et tout le monde s'y retrouve. Donc je prends l'exemple de la Vierge Noire, par exemple. La Vierge Noire dans la forêt de Montmorency, vous pouvez vous promener à la forêt de Montmorency, ne l'avoir jamais vue. Et c'est vrai, quand les personnes vont arriver à la découvrir, ils m'envoient même des petits messages, merci. Et des fois, ils veulent en savoir plus. Alors, on a fait un article dessus, on n'a pas toutes les informations sur la provenance de la Vierge Noire, mais c'est très intéressant de voir le... j'ai donné du contenu, et c'est vrai que ça permet aux gens de se promener. Quoi. Et donc, en parlant de promenade, il y a les idées balades. Pour terminer, les idées balades du journal de François qui sont appréciées parce que ça permet de trouver des petites des promenades de 4, 5, 6 km dans tous les lieux de la vallée de Montmorency.
Par exemple, le village de Valmondois.
Alors, le village de Valmondois, c'est un des exemples parce que là, je suis allé un peu plus loin que la vallée de Montmorency.
Un peu plus loin.
Mais ça paraît, c'est pareil dans les idées balades, où ça permet de découvrir un lieu, un village avec beaucoup d'histoire. Quoi.
Et puis, alors, moi, dans la rubrique histoire locale, ce que j'aime beaucoup, c'est l'étymologie des noms de villes. pourquoi Saint-Prix s'appelle Saint-Prix, Armont, Enghien, tout ça. Mm-hmm. Et c'est vraiment passionnant. Et donc, j'invite tous les auditeurs à faire des recherches sur leur ville ou sur une autre. Ça, c'est vraiment très bien.
Ah, c'est l'histoire locale, ce que j'appelle en série. Donc, on fait une série sur l'origine des noms. Donc, pourquoi, comme tu dis, pourquoi Saint-Prix, pourquoi Hermont, pourquoi Montmorency. Puis, on a fait aussi une série qui a été très, très appréciée, c'est l'arrivée du train en vallée de Montmorency. L'arrivée du train, des transports, les lignes, les gares, toutes les petites histoires sur les gares, pourquoi telle gare, comment ça se fait qu'on a eu une des premières lignes dans la région. Enfin, c'est plein d'histoires. Comment ça se fait qu'il y ait une branche pour aller jusqu'à Méry-sur-Oise.
Oui.
Alors souvent, avec des petites anecdotes, toujours essayer, des esprits du journal, c'est que j'essaie de partir de la petite anecdote qui permet d'éclairer l'histoire. Quoi.
Oui.
Alors si je peux me permettre de citer une histoire que moi-même j'ai écrite, ça s'appelle Le train de Rennes. C'est une histoire qui est totalement imaginaire, mais qui s'appuie quand même sur une donnée historique, c'est pourquoi justement la ligne Paris-Valmondois a été créée. Alors c'est une histoire complètement folle au départ, un projet de la ville de Paris vraiment bizarre, et j'ai inventé une histoire où une petite fille imaginaire de la reine Hortense, qui a vécu à Saint-Leu, revient pour voir sa grand-mère dans un fameux train de mort. Voilà, c'était pas mal.
Tout ça pour rappeler aux auditeurs que Napoléon III avait l'intention de mettre une nécropole à Méry-sur-Oise.
Voilà, c'est ça.
Et il voulait donc que la ligne soit créée et qu'il y ait un train funéraire et qu'on en puisse emmener tous les
cercueils de la veille.
Tous les cercueils de la veille dans
jusqu'à... Un train spécial.
Et
le train fantôme.
Et les maires de Bessancourt, de Méry-sur-Oise se sont insurgés. Mmh. Ils n'ont... Donc le projet a capoté, mais... Les ingénieurs de la SNCF avaient commencé à travailler sur la ligne, donc ils ont continué leur travail et donc la ligne a été mise en place plus rapidement.
Alors il y a aussi une rubrique sur les musées du Val d'Oise, notamment le musée évidemment Gabin qui se trouve à Mériel, c'est ça ?
Voilà, alors ça c'est en plus c'est bien parce que c'est un de mes projets pour l'année prochaine, c'est de renforcer cette rubrique parce que pour l'instant j'en ai pas mis beaucoup et je vais essayer de développer. C'est vrai que celui de la région c'est le musée de Jean-Jacques Rousseau, c'est celui-là l'incontournable. Mais c'est vrai qu'il y en a pas mal, dont à Auvers-sur-Oise, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est un des projets 2024-2025. C'est bien, Didier, c'est bien.
Ah, mais je prépare bien les émissions.
Ouais, je vois.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais, je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris.
Gérard, on va revenir à toi. Donc, dernière fois, quand on s'était vu au mois de mai, tu nous avais parlé de slam que tu avais composé. Je crois que tu en as apporté quelques-uns.
Oui, absolument.
Alors,
oui.
On va slammer.
J'avais commencé, en fait, par écrire quelques slams dans une toute petite publication il y a déjà 9 ans, je crois. Et puis, après, je suis passé aux chroniques. Mais, en fait, donc, c'est un peu cyclique. C'est-à-dire, on revient à des formes d'écrit différentes selon l'inspiration. Oui. Quoi, hein. Donc, récemment, j'avais une petite inspiration pour une dizaine. Et donc, voilà, effectivement, je les ai écrits, quoi. Au départ, pour moi-même, je peux toujours en lire.
Voilà.
Alors, c'est un peu régional, si je puis dire, puisque celui-là, il s'intitule « Direction Gare du Nord ». Il jette un sale regard vers le quai du départ, se précipite dardard hors de deux banlieusards. Chacun son corridor, les autres on les ignore, compressés corps à corps, à la vie, à la mort. Mais quand la rame démarre, chacun fait un écart, un léger coup de coude, se mue en coup de foudre. Si bien qu'à l'arrivée, il reste sur le quai, puis il s'invite au bar, dans le hall de la gare. Ils écoutent le piano, parmi quelques badauds. Quelques notes plus tard sortent sur le boulevard. Avant qu'ils se séparent, face à leurs yeux hagards, surgit une belle façade qui leur lance une œillade, comme un signal d'espoir. On se revoit ce soir ?
Ah, très beau. On pourrait presque l'appeler transport en commun.
Voilà, oui, oui. Bon, j'essaie de garder un peu la même veine que le reste de l'écrit, c'est-à-dire assez bienveillant, qui se termine positivement si possible. Voilà,
il faut maintenant se creuser la tête hein, pour y arriver. Il faut se faire violence un peu, si je puis dire.
Bien sûr, mais bon, je crois que c'est... On en a déjà parlé, sans tomber dans la naïveté. Crois qu'on a aussi besoin quand même de bienveillance. Bon, j'essaie de l'exprimer à travers mon chat, parce que là, c'est quand même un exemple, lui, au moins, les autres, je ne sais pas, un exemple de bienveillance, de prise de distance aussi, de recul. Et donc, j'essaye de garder cet état d'esprit félin, quoi. Même à travers les slams, si possible.
Nous sommes félins pour l'autre.
Voilà.
Alex.
Moi, j'avais une question pour vous deux. Est-ce que vous avez consacré votre vie à l'écriture ou est-ce que, par exemple, c'est quelque chose qui est venu après ?
Alors, non, moi, je n'écris tant que j'étais prof. Oui. Alors, j'ai écrit, sciences économiques et sociales. Oui. Donc j'ai écrit surtout de la pédagogie, de la didactique, des morceaux de rapports de recherche, parce que je faisais un peu de recherche en didactique, mais un type d'écriture très particulier, très contrainte, etc. Et c'est seulement en expérimentant en classe un petit peu de slam. Okay. Un atelier en première, par exemple, mais mini-atelier, on va dire, que petit à petit, l'idée est restée. Et en particulier, je l'avais déjà raconté à Didier, c'est qu'à la retraite, moi, je n'avais pas forcément prévu d'écrire. Mais quand j'ai fait une fête de départ avec mes élèves, ils m'ont dit, mais monsieur, continuez à écrire à la retraite.
Ah oui.
Et du coup, c'était une sorte de petit déclic supplémentaire, même si j'aime écrire, mais je n'avais pas le temps. Et puis voilà, depuis, j'ai écrit quand même, c'est pas des quantités énormes. De toute façon, je ne suis capable que de faire de l'écriture courte, donc je n'écrirai pas de roman de 700 pages, ça ne risque pas. Mais voilà, disons, les petites pages s'alignent, en fait, si on peut dire ça comme ça.
Alors, à propos d'écriture, à propos aussi de musique, François, je crois que tu voudrais nous proposer une pause musicale à partir d'un groupe de Saint-Prix.
Ah, de Saint-Prix, tu veux parler du Traquenard, c'est un duo composé de Lou Bartomier et de son frère, dont je parle assez souvent dans le journal. Et là, ils sont en train de réaliser leur deuxième album. Et là, je vous propose d'écouter Vie, c'est une chanson de leurs plus connues.
Ça va rejoindre un peu d'ailleurs le slam que vient de nous lire Gérard.
C'est vrai.
On écoute. Ouais.
La vie c'est comme les œufs, parfois c'est dur.
Comme une correspondance, on veut pas la rater.
Il faut accepter l'échec.
Sauf s'il n'y a pas de signature.
Le succès est aussi grisant qu'un crayon à papier.
La vie c'est comme les bébés, parfois c'est moche.
Mais comme un tableau sur un mur on s'accroche. Dans le viseur, l'espoir aime s'inviter en douce comme un cambrioleur. À l'heure de rendre l'âme, d'embrasser l'infini, en silence ou dans un cri, perçant comme un tapis, on prétend que nos vies défilent alors sous nos yeux. Faisons que ce dernier instant ne soit pas ennuyeux. Buvons, chantons, rions, aimons tant que nous le pouvons. C'est un joli mot, il est un peu trop court et l'on s'en va bientôt.
On est toujours sur IDFM pour l'émission Rendez-vous compte avec François Jeannin et Gérard Pouet. Et du coup, on voulait continuer la question, est-ce que vous avez consacré votre vie à l'écriture ou c'est venu après ?
Alors moi j'ai plusieurs vies et c'est vrai que j'ai toujours été attiré par les médias, donc tout ce qui est un peu journalisme. Et donc j'ai fait tout au début, j'avais à peu près une vingtaine d'années. J'ai fait un journal de cinéma À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien de tout ça. Et j'ai fait un qui s'appelait la Gazette du cinéma. Et on parlait donc de l'actualité.
Culturelle.
Cinéma, on faisait les critiques de films, on allait voir les avant-premières et tout. On faisait les interviews d'acteurs et tout.
D'accord.
Donc là, on a fait ça pendant quelques années. Donc c'est vrai que ça m'a toujours titillé. Après, j'ai toujours aimé le journalisme, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, que ce soit papier, la presse. Et voilà, et donc c'est après que je me suis lancé là dans le journal de François. C'était vraiment un besoin de faire partager. Je me suis rendu compte qu'il y avait besoin d'informer les gens, de décloisonner l'information locale. Je pense que s'il y avait qu'une chose à résumer, c'est décloisonner l'information locale pour que les gens se rendent compte qu'il se passe des choses juste à côté de chez eux. Voilà. Exactement.
Oui. Ça, c'est très pratique. On n'a pas à prendre le train pour aller à Gare du Nord, Gérard. Alors, moi, il y a une rubrique que j'aime beaucoup aussi, c'est celle consacrée aux personnalités locales, mm-hmm. anciennes ou plus récentes. Par exemple, Edwin Johnson, hein, qui a été prix Nobel de littérature et qui a vécu à Saint-Leu au début des années 1920. Mm-hmm. Il était suédois, je crois. Hein, c'est
oui,
ça.
Me semble, ouais.
Et puis aussi...
C'est la ville de Gérard. Hein, ça,
oui,
la
tienne aussi.
Et la mienne aussi.
La tienne aussi, oui.
Voilà. Et il y a aussi un article sur Franck Devaux. Alors ça, c'est très émouvant parce qu'il habitait Hermont. Mm-hmm. Dernier escapé du convoi des 45 000 qui a relié Compiègne à Auschwitz le 6 juillet 1942.
Voilà. Donc là, c'est vraiment le côté histoire locale et côté personnalité. Mm. C'est de les mettre en avant... Mm. Après, on a refait des recherches. Alors, je ne suis pas historien de métier, hein, mais ça permet après de donner envie, de les faire connaître. Et puis souvent, je mets un lien. Là, pour M. Devaux, il y a une vidéo où il y a son témoignage. Ça permet au lecteur tout de suite de retrouver un peu faire partager ce qu'ils ont vécu. Quoi. Et c'est vrai que c'est des personnalités. Alors, et là, l'avantage avec les personnalités, ça toujours, bah, ça donne un accès plus rapide, plus facile à l'histoire, quoi, tout simplement.
Et alors dans cette rubrique, maintenant, désormais chaque mois, il y a les podcasts de Didier, c'est-à-dire qu'on retrouve certaines de nos émissions que François a accepté de mettre en ligne. Oui. Avec le podcast et un bel article, qu'il rédige tout seul d'ailleurs. Ça prouve qu'il a écouté l'émission.
Ah bah oui, mais quoi.
C'est pas moi qui lui transmets. Alors on peut retrouver par exemple les deux émissions qu'on a consacrées à Bernard Vercruis, peintre animalier spécialisé dans les chats, qui habite au Vert. Marie Brun, une jeune sportive de haut niveau qui habite Saint-Prix. Louis Paillard, jeune sous-marinier de 18 ans de Montlignon, etc. Et Gérard aussi, donc il y a son podcast.
Eh oui.
De notre émission sur le journal de François.
Oui, c'est une boucle, ça permet aussi aux lecteurs du journal de retrouver Maurice, de retrouver Gérard, c'est bien.
C'est une bande de copains.
Voilà. Non, mais ça...
Si je peux revenir une petite anecdote d'enfance qui m'est revenue tout d'un coup, concernant la question que vous m'avez posée sur depuis quand j'écris, je me suis souvenu qu'avec quelques copains, on avait fait dans les années 60 un journal lycéen au lycée Van Gogh à Hermont.
Hein, d'accord.
Un petit journal lycéen qui s'appelait Potache Minute.
D'accord.
Mauvais jeu de mots, mais bon, il s'appelait Potache Minute.
Tu l'as retrouvé
J'en ai toujours un exemplaire, crois. Mais c'était très mal vu encore à cette époque par les directions d'établissement. Mmh. Un petit journal qui était en plus un peu contestataire, si je me souviens bien de l'état d'esprit de mes copains.
Donc c'est vous qui avez déclenché mai 68.
c'était peut-être dans l'esprit, quoi. Mmh. Mais je me souviens que la proviseure du lycée de l'époque l'avait très mal pris. Mmh. Mais bon, avait quand même nous avait laissé publier parce que je crois qu'on avait tiré à 300 exemplaires, quelque chose comme ça, je ne sais pas du tout avec quel moyen de l'époque, mais enfin ça intéressait les lycéens à ce moment-là, et donc elle avait dû laisser faire tant bien que mal, mais contrariée par cette initiative déjà archaïque.
qui était à l'avant-garde, parce que maintenant il y a beaucoup de radio dans les établissements scolaires, il y a beaucoup d'expressions de la part des lycéens.
Même nous, dans notre lycée, à Notre-Dame-de-Bury, on a le journal Loi déchaînée. Donc, ça fait un jeu de mots avec le canard enchaîné. Mmh. Et donc, chaque mois, il y a pas mal de rubriques, que ce soit géopolitique, actualité. On va avoir rubrique cuisine cette année, par exemple. Mais c'est un journal qui a d'ailleurs il a obtenu le deuxième prix du meilleur journal de France au concours Clémy de l'Académie de Versailles. Donc, on va dire que les élèves de Bury sont quand même bien investis dans le journal du lycée.
Et dans le même lycée, on a créé aussi RBR.
Une radio.
radio, Burri Rosaire,
oui.
Donc un compte Instagram où les élèves peuvent valoriser tout ce qu'ils ont fait et où les profs aussi les encouragent, notamment pour le bac. Voilà. Alexandra ?
Moi, j'avais une question pour vous. Gérard, comment est-ce que vous trouvez votre inspiration ? Et ensuite, François, comment est-ce que vous écrivez vos articles ? Où est-ce que vous trouvez vos informations ?
Lui, c'est son chat, lui, Gérard.
C'est-à-dire, en fait, on n'oublie jamais comme sa profession. Donc, en tant que prof de sciences économiques et sociales, j'étais toujours quand même près de l'actualité, par oui. nécessité et par intérêt. D'un autre côté, le chat qu'on a, qui s'appelle Maurice, qui est un chat extraordinaire, vraiment, parmi tous ceux qu'on a eus, il est extraordinaire. Une des raisons, c'est peut-être qu'on l'a recueilli alors qu'il a été abandonné. Je crois qu'il manifeste oui. une reconnaissance permanente. Donc, si je prends le croisement du temps libre de la retraite, de la rencontre avec le chat et de mon intérêt pour l'actualité, et puis du plaisir d'écrire, bah, on a une espèce de mélange cosmopolite non prévu qui, finalement, m'a donné comme résultat un peu d'écriture.
Et un peu de talent, quand même.
Il faut quand même aussi un peu de talent, ça arrive.
Ah, ça aide, Gérard.
Il attendait qu'on le dise.
Talent très local, plus local que le journal de François.
Et toi, François?
Alors, moi, c'était vraiment se tenir au courant pour trouver l'information.
Mais vous la trouvez dans quel site,
par exemple? On la retrouve de tout, partout. On la retrouve. Okay. On peut la retrouver dans les journaux municipaux. Mmh. Des fois, les journaux municipaux, il suffit qu'il y ait un petit entrefilet de trois lignes dans le journal municipal. Mais moi, ça m'intéresse, ça me fait tilt. Alors, ça me permet. Il y a les associations qui font beaucoup de choses, mais qui méritent d'être amplifiées. Il y a même la presse locale, style Gazette du Val-d'Oise et tout ça. C'est tout le monde qui nous entoure. C'est tout le monde qui nous entoure. Des fois, ça peut être une petite personne qui va s'inscrire pour faire le 4L Trophy ou quelque chose et qui va faire une démarche humanitaire pour aider une association.
Oui.
Ça ne prend pas beaucoup de place normalement. Et si on peut la mettre en avant, bah, c'est toujours quelque chose de la région qui... C'est intéressant. Ouais. La télé, avec The Voice, on a eu Maëva là, du Plessis Bouchard qui a fait une belle saison. Bah, on essaie de la mettre en avant. C'est nos personnalités locales, comme dit Didier.
Est-ce que parfois il y a des personnes qui viennent vers vous pour que vous écriviez?
Oui.
Un peu comme des mini-interviews, mais sur papier finalement.
Mais et on me contacte parce qu'on me dit ça serait bien qu'on puisse mettre en avant telle ou telle chose. Alors après, des fois je dis oui, des fois je dis c'est pas dans mon domaine parce que dans le journal, je me garde de tout ce qui est politique, je me garde de tout ce qui est fait divers. C'est pas mon sujet. Donc c'est vrai que des fois on me dit ça serait bien que vous parliez de ci et de ça. Donc j'écoute, ça m'intéresse, mais après. Je fais selon pour rester dans la ligne du journal.
Vous êtes le seul qui gère le journal ou il y a plusieurs personnes qui vous épaulent, qui vous aident?
Alors, je suis le seul qui gère. Après, j'ai deux, trois aides. J'ai une petite, j'ai la chronique aussi de Sophie, libraire à Passe-le-Cut à Herbon.
D'accord.
Qui nous fait ses chroniques littéraires toutes les semaines et tout. Donc,
un historien, non? Peut-être?
J'ai un historien de la forêt de Montmorency, monsieur André Monod, avec qui je discute beaucoup. Je vais me promener avec lui dans la forêt. Donc, je récupère ses informations et puis on essaie de mettre en avant ce qu'il me raconte, ce qu'il partage. On essaie de transmettre. Il y a un côté transmission. Oui. Les historiens locaux, j'essaie de les mettre en avant parce qu'ils font beaucoup de coups de recherche. Des fois, c'est un peu ardu pour lire ça. On n'a pas envie des fois de tout lire. J'essaie de mettre un peu en avant leurs travaux pour informer. Donc, je suis un passeur d'informations.
Notre émission se termine. Alors François, comment est-ce qu'on peut aider le journal de François? Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, comment on fait?
Alors déjà, le consulter, déjà, c'est bien. C'est sur internet, journaldefrançois.fr. Il y a tapé, vous trouvez tout de suite le site internet. Il y a une page Facebook et une page Instagram, mais allez sur le site internet, vous avez l'essentiel. Et si vous appréciez, après, il y a une rubrique pour soutenir le journal. Donc, vous pouvez faire des dons.
Voilà, tout en bas, tout en haut à droite.
Voilà, tout en haut à droite, voilà. C'est exactement. Et vous pouvez faire des dons. Donc, pérenniser le journal. Hein, c'est un acte de soutien.
C'est une cotisation, en fait.
Oui, c'est voilà. Après, mais volontaire. C'est-à-dire voilà. Il n'y a pas. C'est pas parce que vous donnez une année, si vous ne donnez pas après, si vous oubliez de redonner, vous pouvez quand même toujours consulter le journal. C'est vraiment une démarche volontaire du lecteur.
Gérard, on peut rappeler l'atelier d'écriture qui va recommencer à Saint-Leu?
Oui, bah, normalement, je crois que c'est le mercredi 25 septembre, si je ne me trompe. Voilà, on va reprendre une 12e, je crois, une 12e année d'atelier d'écriture.
Voilà, on refera une émission spéciale avec toi là-dessus. D'accord. Parce que là, le temps est déjà terminé. On va vous remercier, messieurs.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Gérard.
C'était
Didier Delattre
et Alexandra sur IDFM.
Alors vous retrouverez cette émission en podcast sur le site de la radio.
À la semaine prochaine, même heure, même adresse pour un nouveau rendez-vous compte.